Et puis vous voyez ces taches dans le ciel et nous les voyons avec un niveau de confiance de 99,98%. Maintenant, plusieurs personnes critiquent ce modèle, mais elles ne semblent pas en parler.
Sa théorie est ma deuxième théorie préférée. C'est
une théorie sur le monde qui dit quelque chose de nouveau et d'irréalisable. C'est trop facile. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, et puis, je veux dire, le grand livre de Roger sur la fantaisie, ce qu'il dit, a très clairement montré le fait que oui, il y a une partie de la physique théorique qui s'est un peu égarée, je dirais. D'accord. Roger, en ce qui concerne votre théorie de la cosmologie cyclique conforme, comment cela s'inscrirait-il dans cette ligne de prédiction d'observation future? Est-ce que votre théorie CCC est sujette à des attaques non scientifiques? Non. Eh bien, vous voyez, il y a deux choses que je dirais. Tout d'abord, essayez de comprendre le tableau. Je veux dire, l'idée originale est venue de la tentative de comprendre comment on pouvait avoir un Big Bang qui serait exempt de degrés de liberté gravitationnelle. Et l'idée est venue d'un de mes anciens étudiants. Au départ, il fallait penser au Big Bang et voir comment on pouvait le rendre exempt de degrés de liberté gravitationnelle. Eh bien, l'idée était de l'étirer de manière conforme. Cela signifie donc que l'on change l'échelle sans changer, je devrais expliquer ce que signifie conforme. On agrandit ou on réduit l'échelle. Je veux dire que l'artiste MC était très doué pour représenter les limites de son cercle. On peut voir ses anges et ce diable. Plus ils se rapprochent de la limite, plus ils ont la même forme, mais ils sont de tailles différentes, et c'est conforme. C'est une image conforme, c'est donc une bonne image conforme de ce à quoi pourrait ressembler l'infini. L'idée. Ici est le Big Bang, comme je le disais, mon ancien élève Paul Todd avait cette suggestion selon laquelle la façon dont on pourrait rendre le Big Bang spécial de cette manière particulière est de dire que lorsque vous l'étirez formellement, il est agréable et lisse. Et c'est presque mon point de vue. Je suis allé un peu plus loin et j'ai dit que ce n'était pas agréable et lisse comme ça, mais que, de manière conforme, c'était très similaire à ce que devrait être le futur lointain. L'échelle est très différente. Le futur lointain est très étendu, très peu dense, très froid. Le Big Bang est très dense, très chaud et ressemble complètement à l'opposé. Mais d'un point de vue conforme, ils sont très très similaires. Si vous écrasez l'infini, il devient plus chaud. Vous étirez le Big Bang, il devient plus froid et moins dense, et le Big Bang dans le futur lointain devient plus dense. Et donc ce n'est pas si ridicule de penser que, de ce point de vue, le Big Bang ressemble beaucoup à ce que nous attendons dans le futur lointain. Vous aviez une merveilleuse description lors de notre première rencontre. Vous avez dit quelque chose comme après des éternités, l'univers oublie sa propre taille et donc l'univers ne connaît plus sa propre taille et il suppose que c'est le début d'une nouvelle ère. Quelque chose comme ça, mais vous voyez, laissez-moi joindre une attaque au deuxième point que vous voyez que vous avez soulevé à propos de l'observation. Il y a des prédictions observationnelles de type de cosmologie conforme, CCC, et ces prédictions observationnelles sont confirmées. Assez remarquablement, le plus remarquable, je dirais, est celui où il y a un article dans les notices mensuelles de la Royal Astronomical Society il y a environ 5 ans. Je ne sais pas quand il a été écrit par Christophe Messner, Pavel Norovski, Daniel Hahn et moi-même. Et nous recherchons les effets de vous voyez maintenant, nous pensons au futur lointain de ce que j'appelle un néon. Léon commence avec son Big Bang noir et se termine avec son futur lointain qui est complètement raréfié. Puis cela rejoint Léon suivant parce qu'il devient conforme. On ne peut donc pas distinguer le grand du petit, et cela devient le Big Bang de Léon suivant. Maintenant, l'un des grands tests d'observation de cela, qu'arrive-t-il au trou noir? Les trous noirs sont là. Je parle de trous noirs supermassifs, probablement des amas galactiques. Chaque galaxie contient un trou noir, puis elles entrent en collision et les trous deviennent de plus en plus grands, puis Puis il commence à avaler les étoiles. Je pense qu'une bonne proportion, probablement la majorité des étoiles, finissent par être avalées par ce trou noir. C'est donc énorme. Ce trou noir reste là, reste là, reste là jusqu'à ce que la température ambiante de l'univers devienne inférieure à la température de Hawking de ce trou noir, ce qui, comme je l'ai déjà dit, dure environ 10 à 100 ans, puis il commence à s'évaporer. Qu'arrive-t-il à toute l'énergie contenue dans ce trou noir? Eh bien, cet amas galactique est converti en rayonnement sous une forme ou une autre. Maintenant, ce rayonnement, puisqu'il est si faible, pardon, puisqu'il est arrivé si tard, quand on le rejoint dans l'éon suivant, c'est plus ou moins un point. Parce que si vous regardez les images, c'est encore un autre exemple. Vous pensez que très, très près du bord des images, les anges et les démons deviennent si petits que quoi qu'il arrive, il y a plus ou moins un point. Donc tout ce rayonnement sortant de ce trou noir sera concentré en un petit point lorsqu'il passera de l'autre côté. Il y aura une explosion d'énergie. Cette explosion d'énergie finira par chauffer la matière qui l'entoure, et elle atteint une certaine taille, qui est à peu près la plus grande qu'elle puisse atteindre. D'après l'histoire du point E, eh bien, quand il devient visible, c'est-à-dire, disons, quand il commence à pénétrer dans la matière de l'univers, l'univers se refroidit jusqu'à ce que le rayonnement puisse sortir, et alors vous voyez ces taches dans le ciel. Et nous voyons ces taches avec un niveau de confiance de 99,98%. J'ai entendu plusieurs personnes critiquer ce modèle, mais elles ne semblent pas en parler. Elles ont des façons de voir moins. Je trouve cela plutôt ironique, d'une certaine manière. Ils disent que lorsque vous faites l'analyse à ma manière, vous ne voyez pas un signal aussi fort. Eh bien, Laura, comment la cosmologie cyclique conforme de Rogers interagit-elle ou s'associe-t-elle à votre théorie sur la formation des univers à partir d'un multivers quantique?
Encore une fois, ce sont des théories très différentes, car la théorie de Rogers repose sur des symétries conformes et des transformations conformes. Cela dit, sa théorie est ma deuxième théorie préférée après la mienne, car elle ne viole pas la deuxième loi de la thermodynamique. Il y a une telle beauté naturelle dans l'idée que l'univers continue de s'étendre indéfiniment dans cet état. Vous perdez les horloges, le temps s'arrête parce que vous n'êtes pas autorisé à modifier l'entropie. Vous pouvez donc redimensionner tout ce gigantesque néant en quelque chose de petit et tout recommencer. Et comme Rawl a expliqué, vous avez besoin d'une petite ondulation. Vous pouvez donc modifier l'entropie. Vous vous éloignez de l'état d'entropie constante. J'aime beaucoup cette idée. Elle n'a aucun rapport avec la mienne. La mienne est que vous commencez avec la fonction d'onde de l'univers dans un espace de phase. Vous avez un ensemble d'énergies possibles parmi lesquelles l'univers peut choisir pour démarrer son propre Big Bang. Ensuite, j'utilise une équation de gravité quantique canonique, de type Wheeler-Wheat, qui vous indique la réponse. Elle indique que si vous laissez votre fonction d'onde traverser cette énergie potentielle avec de nombreuses valeurs, alors voici ce que vous obtenez comme solution. L'intrication quantique est un énorme problème et en fait, j'allais demander à Carlo ce problème d'intrication dans les scénarios de trous noirs blancs, mais dans mon cas, toutes les branches de la fonction d'onde sont quantiquement intriquées les unes avec les autres. Ainsi, chaque branche se trouve dans son propre vide, empruntant l'énergie de ce vide. Afin de traverser cette phase initiale d'expansion inflationniste, vous avez de nombreuses branches de ce type qui font des choses similaires à des énergies différentes. Vous devez trouver un moyen de séparer ou de découpler ces branches les unes des autres, car c'est ce qui déclenche la transition quantique vers classique. Au fur et à mesure que cette branche grandit et devient votre propre univers, elle deviendra un univers classique. Bien qu'elle ait commencé à partir d'une origine quantique. Ainsi, dans le processus d'élimination de l'intrication, vous impliquez quelque chose appelé décohérence où vous avez une interaction de la fonction d'onde de l'univers avec un environnement. Maintenant, il existe des conditions qui constituent le problème de l'observateur en cosmologie. Il existe des conditions sur l'environnement qui observent votre système, votre fonction d'onde de l'univers. Il doit interagir très chaque semaine avec le système afin que, dans le processus d'observation, il n'interfère pas avec le résultat de cette mesure. Ainsi, les fluctuations de très grande longueur d'onde constituent le chemin des fluctuations pour calculer la cohérence. Mais cette intrication quantique très précoce qui est progressivement éliminée laisse une brèche dans notre ciel CNB. Car bien que la CNB soit observée beaucoup plus tard, les fluctuations primordiales qui donneront naissance plus tard à la CNB et à la structure à grande échelle sont produites pendant les dépliements de l'inflation pendant la première fraction de seconde de l'expansion inflationniste.
D'accord. Roger, je pense que c'est le plus grand compliment qu'un cosmologiste puisse recevoir lorsqu'un autre cosmologiste dit que votre théorie est sa deuxième préférée. C'est donc un très, très beau compliment. Carlager résume cette section en disant « quel est le bon équilibre entre être certainement prudent vis-à-vis des idées spéculatives et les forcer à avoir un niveau de rigueur très élevé tout en restant ambitieux et créatif et dans le désir de trouver de nouvelles vérités et d'apprendre autant que possible ?» Je ne suis pas très inquiet. Je veux dire que le temps fera le reste. Certaines idées se perdront, d'autres survivront et d'autres trouveront étonnamment des observations consensuelles. Roger, les observations deviennent de plus en plus claires et de plus en plus de gens sont convaincus qu'il s'agit de schémas dans le CNB. L'intérêt va donc continuer à croître. Il y a donc de nombreux problèmes ouverts. Je ne suis pas un cosmologiste. Je travaille à une échelle beaucoup plus petite. Je suis un chimiste par rapport à ce que LL et Roger ont dit. J'ai travaillé sur une gravité quantique spécifique, qui est une théorie des phénomènes de gravité quantique. Cela ne concerne pas l'univers. Cela ne concerne pas le futur lointain, ce qui va se passer dans un futur lointain. N'est-ce pas? Cela concerne l'ici et maintenant, et les phénomènes gravitationnels quantiques possibles qui se produisent ici et maintenant. C'est une entreprise à une échelle beaucoup plus petite. Je veux dire que nous avons une théorie de la gravité quantique. Nous calculons des choses. Nous essayons de voir où nous pouvions calculer des choses qui pouvaient être observables et la quantification de l'air, qui est la prédiction spécifique de la gravité quantique, nous a longtemps semblé sans rapport avec l'observation. Comment peut-on mesurer une air? À l'échelle du blanc, c'est extrêmement petit. Mais l'air à l'échelle de Planck pour la surface d'un trou noir, d'un trou blanc, c'est une masse de Planck, et une masse de Planck est un microgramme. Est-ce le poids de mes cheveux? Donc ce n'est ni très petit ni très grand, c'est quelque chose auquel nous pouvons accéder. Voici donc une prédiction spécifique, et je pense que c'est vrai pour toutes ces idées. Si elles peuvent donner une prédiction spécifique, et au moment où quelque chose fait l'objet d'un consensus sur l'observation, beaucoup de choses seraient oubliées, et certaines resteront, comme toujours, dans la science, depuis toujours. Ouais. L'argument est que dans le monde d'aujourd'hui, il existe une grande unité entre la gravité quantique à l'échelle microscopique et ce qui se passe dans l'univers, qu'il s'agisse des trous noirs, du Big Bang ou au-delà, et qu'il faut vraiment résoudre ces deux problèmes en parallèle. On ne peut pas les séparer. On devrait peut-être les étudier séparément, mais au final, ils doivent fonctionner ensemble. Non, je ne pense pas que nous soyons au bout du tunnel de la science. Je veux dire que je ne pense pas que nous devions chercher la solution ultime à tout. Nous sommes très loin d'une solution ultime. Nous sommes dans le noir. Nous sommes complètement dans le noir. Nous ne devrions pas chercher la théorie finale de l'univers et l'explication finale de tout. Nous devrions comprendre une chose à la fois. Non, ouais, non, non, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais au final, il faut unifier les deux pour pouvoir comprendre l'un ou l'autre complètement, comme objectif. Au final, je ne sais pas, je veux dire, au final, nous devrions tous vivre en paix et ne pas faire la guerre. C'est plus. Je veux dire qu'en fin de compte, il s'agit de voir des questions spécifiques, des problèmes spécifiques que la science peut résoudre, et je pense que la science fonctionne mieux de cette façon. Je pense plutôt que nous voulons examiner la chose ultime que nous voulons atteindre. Ok, passons au thème 3. Et je veux revenir au trou blanc, le thème de notre débat, et posait quelques grandes questions sur ce que la théorie des troublants impliquerait, indépendamment du fait qu'ils existent réellement, car c'est un banc d'essai théorique, un test de résistance si vous voulez, pour les théories de la physique. Pour continuer à regarder cette vidéo, cliquez sur le lien en haut à gauche ou dans la description ci-dessous.
Un essai gratuit vous donne accès à cette conférence et à des milliers d'autres.
Merci de participer à la conversation.